Bonsoir à tous et bienvenue à cette étude biblique audio que je n'enregistre pas en live parce que vous l'aurez peut-être vu, le thème Bible et parfum se prête bien à un petit atelier. J'ai un petit coffret des parfums de la Bible et donc voilà, je serai amené pendant l'étude à me déplacer pour faire sentir des choses aux personnes qui seront présentes. Donc j'ai préféré enregistrer un audio à part, pour ne pas trop perturber l'écoute. Et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet, en rappelant l'origine étymologique du mot parfum en français. Ça vient du latin perfumum, et qui signifie littéralement par la fumée, à travers la fumée. Pourquoi ? Parce que l'hypothèse que nous avons sur l'origine des parfums, c'est qu'après la découverte du feu, on a remarqué qu'on pouvait cuire des aliments, bien sûr, mais aussi que la fumée montait vers le ciel. Et certaines plantes qui étaient jetées sur le feu dégageaient une odeur agréable. Et c'est ainsi qu'on a découvert les premiers parfums, au sens littéral du terme. Ce ne sont pas encore les huiles parfumées ni les parfums liquides que l'on connaît aujourd'hui. Du fait que cette fumée odorante, montait vers le ciel, c'était considéré comme une offrande pour les divinités dans de nombreux peuples, et cela très tôt dans l'histoire de l'humanité, dès le néolithique. On en a une mention dans Genèse, chapitre 8, versets 20 et 21, où Noé construit un autel en l'honneur de Dieu, et il prend de tous les animaux purs, de tous les oiseaux purs aussi, il en offre un sacrifice par le feu sur l'autel qu'il a construit. Et le texte nous rapporte que Dieu sentit la bonne odeur et il dit en son cœur, donc Dieu dit en son cœur, « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne recommencerai plus à frapper les êtres vivants comme je l'ai fait. » Alors dans ce passage, bien sûr, il ne s'agit pas d'une plante odorante, mais d'animaux brûlés qui sont d'une agréable odeur pour Dieu. Et on trouvera d'ailleurs dans l'Ancien Testament la mention de l'odeur agréable 40 fois, en rapport surtout avec le sacrifice de l'Holocauste. Aux alentours de 4000 avant Jésus-Christ, c'est chez les Égyptiens qu'on trouve les premières traces d'utilisation de plantes aromatiques pour des cérémonies religieuses. Alors, certains spécialistes pensent que les Chinois utilisaient l'encens avant même les Égyptiens, mais en tout cas, les traces précises qu'on peut retrouver d'utilisation de plantes aromatiques, c'est aux alentours de 4000 avant Jésus-Christ. On utilisait des branches, des herbes, des racines, des gommes ou des résines qui étaient brûlées pour répandre des odeurs agréables offertes aux dieux. Chaque jour, les Égyptiens brûlaient des aromates pour le dieu du soleil, à son lever, à son zénith et à son coucher. Ramsès II, qui est le fils de Séti Ier, dont on sait qu'il offrait de l'huile parfumée à ses soldats, donc Ramsès II, le fils, aurait apporté au dieu près de 2 millions de mesures d'encens au cours de son règne. Les Égyptiens brûlaient le célèbre encens appelé Kifi, un mélange très odorant composé de myrrhe, de lentisque, de baies de genévrier, de graines de fénugrec, de pistache et du souchet comestible, tout broyé, mélangé à du vin et à une préparation cuite à base de résine et de miel. Et c'est donc dans les temples égyptiens que l'art de la parfumerie se développa petit à petit, où différents mélanges correspondaient à des rites précis, des rites de fumée purificatrice, fumée pour la gloire des dieux, fumée offerte également pour que les prières soient exaucées. Alors, l'art du parfum ne se limitait pas aux seules fumées odorantes. Grâce aux diverses propriétés des résines et des aromates qu'on a découvertes au fur et à mesure, les prêtres se mirent à fabriquer des pommades pour la toilette des statues divines, notamment Horus. Il y avait tout un cérémoniel pour préparer des pommades avec lesquelles on enduisait les statues divines. Et également, on le sait, pour la momification des grands personnages, de telles pommades, de tels aromates, et parfums étaient également utilisés. Mais à la base, les parfums viennent du domaine sacré, comme une offrande aux dieux, et comme un élément fondamental de l'embaumement. Alors l'embaumement, bien sûr, il s'agit d'hommes qui sont décédés, mais quelque part, c'est un rapport toujours avec le sacré et le religieux. Dans les temples égyptiens, les parfums sont offerts aux dieux. Ils finissent même par signifier la présence des dieux eux-mêmes, et d'ailleurs le vocabulaire égyptien pour parler des parfums, sanatre, se traduit par odeur divine, ou plus précisément, qui fait connaître le dieu. Donc d'abord une offrande, mais tout doucement ça devient par être une odeur divine, une odeur de Dieu. Certains parlent même de la myrrhe comme la sueur des dieux, et ensuite quelque chose qui est un chemin vers Dieu, qui fait connaître le Dieu, les dieux. Voilà. À cette époque, il faut savoir qu'avec l'or et les pierres précieuses, le parfum révèle la richesse. Chaque cour royale conserve parmi ses trésors des jarres d'encens, de cinnamome et de safran, ainsi que des flacons d'albâtre ou d'onyx contenant de l'huile de nard et de myrrhe. On a d'ailleurs retrouvé sur de nombreuses tablettes en argile, en écriture cunéiforme, des listes et des tarifs pour ces différents aromates, ce qui témoigne de l'ampleur du commerce de ces substances. Dans le laboratoire du palais de Marie, on fabriquait 600 litres de parfums par mois, d'après ce qu'on a pu retrouver dans les fouilles archéologiques et ce qui était noté sur différentes tablettes en argile. Peu à peu, pour les personnages les plus importants, les rois, les pharaons, le parfum fait son entrée dans le monde profane et on lui prête les vertus suivantes: la purification, la thérapeutique, l'apaisement, l'envoûtement et la séduction. Cléopâtre, dont on connaît son grand pouvoir de séduction, était une grande utilisatrice d'huile parfumée dont elle se servait pour séduire ses amants. On raconte qu'elle parfumait même les voiles de son navire pour qu'une bonne odeur la précède lorsqu'elle se déplaçait sur le Nil. Chez les Hébreux, l'usage des parfums est probablement plus tardif, mais leur longue période d'esclavage en Égypte leur a sans doute permis de connaître et de s'approprier les techniques de parfumage et également celles de l'embaumement. Moïse, par sa culture égyptienne, connaissait et utilisait les parfums. Nous en retrouvons la trace dans le livre de l'Exode, où un jour Dieu demande à Moïse de fabriquer du parfum, d'en boire une partie et de mettre l'autre dans la tente de la rencontre. Dieu demande à Moïse quelque chose qu'il savait déjà faire. Dans le psaume 133, on voit que l'huile parfumée coule sur la barbe et sur les vêtements d'Aaron, donc c'est à la même époque, et que cela est un signe de joie. Or, on sait que dans certaines fêtes égyptiennes, il était d'usage que les invités soient coiffés de cônes aromatiques qui, à la chaleur du corps, libéraient une huile parfumée sur la chevelure et les vêtements. Les Romains, 1000 ans plus tard, accordèrent une grande place au parfum. Ils apportèrent des améliorations quant aux ingrédients et en développèrent l'usage. En l'honneur des dieux et pour des rites funéraires également en priorité, mais aussi pour les vertus thérapeutiques. Néron, par exemple, utilisait un baume à base d'encens aux vertus régénératrices pour éliminer les traces de ses nuits d'orgie. Lors des funérailles de Poppée, qui était la concubine puis ensuite l'épouse de Néron, le stock d'encens d'Afrique fut épuisé en une seule offrande. Alors, serait-ce pour se faire pardonner des dieux de son double meurtre, parce que Néron avait en effet tué son épouse, qui était enceinte, il l'avait tuée d'un coup de pied. Et lors de ses funérailles, du coup, il offre peut-être aux dieux une énorme quantité d'encens. Il a vidé le stock qu'il y avait à Rome, de l'encens qui venait d'Afrique à cette occasion. À Rome, l'utilisation et le commerce aussi du parfum furent si importants que la ville reçut le titre de capitale du parfum. Le savoir-faire romain se développe autour des pommades et des pâtes parfumées facilement transportable. Alors voilà quelques éléments de l'histoire du parfum, depuis le néolithique jusqu'à l'Empire romain, en passant par l'Égypte et les Hébreux. Mais on va maintenant regarder de plus près ce que la Bible nous dit à propos des parfums et quelques mentions de différents parfums dans la Bible. Il y a un passage de la Genèse qui précise que déjà au temps de Joseph, un commerce de résine et de plantes à parfum existait au Moyen-Orient. Les pays de la Corne de l'Afrique, la Nubie aussi, les pays du Moyen-Orient, l'Irak, l'Iran, ainsi que les rivages de la Méditerranée récoltaient des gommes, cultivaient des plantes qui étaient ensuite acheminées à dos de chameaux dans de longues caravanes qui traversaient les différents déserts vers l'Égypte. Et le ladanum est une de ces gommes résines récoltées et dont on trouve une trace en Genèse 37-25, par exemple, donc dans la caravane de passants là, Joseph est vendu par ses frères. Il transportait du ladanum, nous est-il dit en Genèse 37-25. Le Galaad, qui est situé en Jordanie, près du mont Hébron, était une région très fertile et productrice de gommes odoriférantes. L'Éthiopie, l'Érythrée, l'ancienne Nubie, étaient grandes pourvoyeuses de produits odorants, et certains étaient même d'origine animale, comme la civette. C'est une sorte de petit chat sauvage dont le parfum puissant était considéré comme aphrodisiaque et était acheminé dans des cornes de buffle pour ne pas s'altérer. On récoltait la substance de la civette, qui est appelée aussi chat musqué, sur une glande anale, et ensuite on la transportait. C'est un de ces voyages qui nous est relaté dans un passage du deuxième livre des Chroniques, en 2 Chroniques, chapitre 9, verset 1. Au passage, je vous invite à prendre une Bible aussi pour, quand je cite des passages bibliques, lire directement le verset, si je ne le fais pas. Et donc, dans ce dernier verset, justement, apparaît une dimension nouvelle de l'usage du parfum, la notion de cadeau et de séduction. On le voit aussi dans le livre d'Esther, au chapitre 2, verset 12. Ce double usage du parfum comme cadeau ou pour la séduction est toujours bien présent aujourd'hui dans nos traditions sociales. Il n'y a qu'à regarder les publicités pour s'en convaincre. Ceci dit, c'est quand même pour un usage sacré que les parfums sont le plus souvent cités dans la Bible. Exode 30, 34 à 38. Je vous renvoie aussi vers Exode 25, 1 à 6. Dieu dit à Moïse, « Prends en quantité égale de la résine odoriférante, du styrax, du galbanum odoriférant et de l'encens pur. Tu en feras un parfum à brûler comme en font les parfumeurs, salé, sans mélange et sain. Tu le réduiras en poudre et tu en mettras devant le témoignage, l'acte de l'alliance, et dans la tente de la rencontre où je viens te trouver. » Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez pas pour vous de l'encens semblable à celui-ci, car c'est un encens réservé à Yahvé. Celui qui en ferait un semblable pour le respirer serait retranché de son peuple. Alors là, il est précisé de manière claire la distinction entre le parfum réservé pour le sacré et celui pour le profane. Personne ne pouvait se parfumer avec ce parfum réservé et consacré à Dieu. Et le mélange était donc brûlé, Exode 30, versets 1 à 9. « Tu feras un autel pour faire fumer l'encens. Tu le feras en bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée, sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de deux coudées. Là, chaque matin, Aaron fera fumer l'encens parfumé. Il arrangera les lampes et fera brûler l'encens. Quand Aaron allumera les lampes à la tombée du jour, il fera encore fumer cet encens perpétuel devant Yahvé. Cela sera pour les générations et les générations. Vous ne ferez pas brûler sur cet autel un encens profane. Vous n'y ferez non plus ni sacrifice par le feu, ni sacrifice ordinaire, ni offrande de liquide. » Ce sont donc les prêtres qui sont en charge de faire brûler l'encens parfumé sur un autel réservé à cet usage dans le Saint des Saints, là où se trouvait l'Arche de l'Alliance. En plus de cet usage cultuel, le parfum était utilisé dans l'embaumement, Genèse 50, versets 2 et 3, 2 Chroniques 16, verset 14. Et notons également que l'huile qui servait pour les onctions royales, sacerdotales et prophétiques étaient des huiles mêlées à des parfums. Dans le Nouveau Testament, maintenant, les parfums sont présents également. On peut penser aux mages, avec la myrrhe et l'encens. Certains font remarquer que les cadeaux des mages disent quelque chose de l'identité de Jésus, de l'or parce qu'il est roi, de l'encens parce qu'il est Dieu et de la myrrhe parce qu'il est un homme mortel. Mais le passage le plus connu, si l'on parle du parfum, est sans doute celui où Marie verse du parfum, de la myrrhe ou du nard, selon les passages, sur les pieds de Jésus et aussi sur sa tête dans l'évangile de Marc. Le nard est sans doute l'un des plus anciens parfums orientaux connus. Il s'agit sous forme d'huile d'un parfum de couleur ambrée à l'odeur puissante. C'était un parfum très rare et de grand prix, réservé aux grands personnages. Et on a aussi quelques passages qui nous présentent un emploi symbolique de la bonne odeur dans le Nouveau Testament, dans quelques versets que je vous lis maintenant, 2 Corinthiens 2, 14 à 16. « Remercions Dieu qui nous entraîne toujours dans la marche victorieuse du Christ et se sert de nous pour répandre en tout lieu le parfum de sa connaissance. » Si le Christ est la victime, nous sommes l'odeur du sacrifice qui monte vers Dieu. Nous sommes la bonne odeur de Christ, du Christ. Et la libéralité des Philippiens qui est comparée à un sacrifice de bonne odeur que Dieu accepte et qui lui est agréable en Philippiens 4, verset 18. Le sacrifice de Jésus qui est aussi d'une odeur agréable, Éphésiens 5, verset 2. Voyons maintenant quelques parfums qui sont cités dans la Bible, on en a déjà cité certains. Donc l'encens, en tout premier, l'encens, au Liban, ça s'appelle au Liban, O-L-I-B-A-N, est une gomme résine recueillie sur un arbuste, le Boswellia floribonda, qui pousse en Arabie. C'est l'arbre à encens, c'est l'encens pur, hein. L'encens bien sûr désigne aussi toutes sortes de parfums qu'on peut brûler encore aujourd'hui qui sont mélangés, mais l'encens pur, appelé aussi oliban, vient d'un arbuste qui pousse en Arabie. Son nom, encens, vient du latin incensum, qui signifie « ce qui est brûlé ». L'encens est le premier parfum de l'humanité. Lorsqu'il est déposé sur des braises, il dégage une fumée odorante. Et puis pour mieux brûler, il est réduit en petits grains. En brûlant, il dégage une fumée bien visible. Et l'encens est devenu pour le peuple d'Israël le symbole de la prière qui monte vers Dieu. Dans le psaume 140, on peut lire « Que ma prière, Seigneur, s'élève comme l'encens devant ta face, comme mes mains levées pour l'offrande du soir. » Et dans Apocalypse, chapitre 8, versets 3 et 4, on a cette image qui est reprise. Un autre ange est venu, qui se tenait à côté de l'autel de l'encens. On lui a remis un encensoir d'or avec beaucoup d'encens. C'étaient les prières des saints qu'il devait présenter devant Dieu sur l'autel d'or, l'autel de l'encens. Et la fumée de l'encens, c'est-à-dire les prières de tous les saints, est montée vers Dieu de la main de l'ange. Aujourd'hui encore d'ailleurs, l'encens est très utilisé, notamment dans la liturgie catholique, avec notamment le Saint Crème. La myrrhe maintenant. La myrrhe, elle est produite par l'arbre à myrrhe, appelé quelquefois le balsamier. C'est une gomme résineuse récoltée sur le tronc d'arbre, d'où elle sointe naturellement. Elle était récoltée dans la région du Yémen et transportée à dos de chameau, de dromadaire d'ailleurs, dans tout le bassin méditerranéen. La reine égyptienne Hatshepsut avait tenté de cultiver l'arbre à myrrhe en Égypte en faisant venir une trentaine de ses arbres, mais ces derniers ne se sont pas acclimatés. La myrrhe a des vertus hydratantes pour la peau et aujourd'hui elle entre dans la composition de la liqueur dite bénédictine. Elle évoque la joie des noces, les joies de l'amour avec une certaine sensualité dans le Cantique des Cantiques où elle est mentionnée 7 fois. Comme dans ce verset par exemple, « Mon bien-aimé est un sachet de myrrhe reposant entre mes seins. » Ou encore, je vous renvoie vers Proverbe 7, verset 17. « Le roi porte des habits parfumés avec de la myrrhe. » Psaume 45, verset 8. Dans le Nouveau Testament, la myrrhe se rapporte toujours à Jésus lorsqu'elle est citée, de sa naissance à sa mort, avec à sa naissance les mages, et à sa mort l'embaumement de son corps, mais également le mélange de vin et de myrrhe qu'on lui propose de boire sur la croix. Le galbanum, c'est une gomme, c'est-à-dire elle est soluble dans l'eau, issue des racines d'un arbrisseau du type férula qui pousse en Iran ou Afghanistan et qui est toujours utilisé en parfumerie. Son parfum est obtenu par distillation de ses racines ou en récoltant la gomme après incision du bulbe. Le galbanum n'est cité qu'une fois dans la Bible, donc dans la recette de ce fameux parfum réservé à Dieu. Le galbanum dégage en brûlant une fumée âcre et de ce fait il était utilisé pour éloigner les serpents. Mélangé à du vin et de la myrrhe, il est efficace, dit-on, contre les piqûres de scorpions. Et cette faculté à éloigner les animaux nuisibles lui confère une symbolique particulière que certains auteurs antiques associent aux forces du mal. L'odeur du galbanum pur est plutôt désagréable, mais elle se mélange bien, paraît-il, avec d'autres parfums, dont elle accentue la fragrance. Le cinnamome aromatique, c'est le nom ancien du cannelier. Cette fois-ci, c'est l'écorce qui est d'une bonne odeur. Lorsqu'on la réduit en poudre, cette écorce, c'est de la cannelle. Il existe plusieurs types de cannelle. Le cannelier aromatique se trouve notamment aux Indes et sur l'île du Sri Lanka, appelée Ceylan à l'époque, et arrive donc en Égypte, soit par la Perse et la Mésopotamie, soit par voie maritime jusqu'en Éthiopie ou au sud de l'Arabie, ce qui en fait oublier quelquefois sa véritable origine aux Indes. Le nard, il est issu d'une petite plante, le Nordostrachis jatamansi, de la même famille que la valériane. Et cette plante pousse dans la chaîne de l'Himalaya au Népal, entre 3200 et 5000 mètres d'altitude. Le nard est une huile précieuse issue des rhizomes, de la feuille et des épis de la plante. Pour le transporter, on utilisait des petits flacons d'albâtre au col effilé, obturés par de l'argile. Dans la Bible, on le trouve cité en Cantique 1, verset 12, 4, verset 14 et dans le Nouveau Testament, en Marc 14, 3 et Jean 12, 3. Le ladanum, maintenant, c'est une gomme résine odoriférante, sécrétée par la base des feuilles d'un petit arbrisseau, le Cistus ladaniferus. Hérodote et Pline racontent qu'on pouvait le recueillir cette substance en peignant la barbe des chèvres dont les poils étaient imprégnés. Si les chèvres gambadaient dans les champs où il y avait ce fameux arbrisseau, le cistus, on pouvait recueillir du coup sur la barbe des chèvres la substance, puisque c'était une gomme résine qui collait aux poils de la barbe. Jacob ordonne qu'on en offre à Joseph, en Genèse 43, verset 11. Et enfin, le dernier parfum que je mentionnerai, le storax, qui est mentionné qu'une seule fois dans la Bible, pour la composition du parfum consacré à l'Éternel. C'est une exsudation résineuse, donc elle n'est pas soluble dans l'eau, mais dans l'alcool, d'un arbre de petite taille qu'on appelle l'alibouffier. On l'utilise encore aujourd'hui en parfumerie pour relever les notes de fond des compositions florales. Alors voilà, j'étais un petit peu rapide peut-être, mais j'ai quelques photos, je ne peux pas vous les montrer là sur l'audio bien sûr, et surtout j'ai ces parfums que je viens de mentionner dans des petits pots, et voilà, Et donc, je pourrais, si vous le souhaitez, vous me contacter, je pourrais vous faire sentir ces différents parfums. J'aimerais néanmoins finir cette étude des parfums dans la Bible en faisant remarquer qu'il y a quand même un terme que je n'ai pas encore abordé et qui pourtant a un lien très fort avec le parfum. Et alors, c'est un terme qu'on trouve des centaines de fois dans le Nouveau Testament et quelquefois aussi dans l'Ancien Testament. C'est ce qui concerne le Messie, qui signifie celui qui est oint. Et donc, dans le Nouveau Testament, à chaque fois que vous avez l'emploi de l'adjectif Christos, Christ, celui qui est oint, et celui qui est oint, c'est Jésus, c'est notre Seigneur et Sauveur. Donc dans son titre même, Jésus-Christ, il porte cette allusion au parfum. Voilà, alors si vous aviez été présent à l'étude en présentiel, on a chanté à la fin le cantique « Vers toi Seigneur, j'élève ma voix, reçois notre Dieu comme un doux parfum, notre prière de reconnaissance. » Voilà, c'est sur ces mots-là que je vous laisse, en espérant que voilà, cette étude un petit peu exotique vous aura plu. Et n'hésitez pas à venir me trouver si vous souhaitez en savoir plus. J'ai également un petit livret sur les parfums dans la Bible, où j'ai quelques images, quelques photos, et puis encore d'autres références à vous faire découvrir, si vous le souhaitez. Je vous souhaite à chacun une bonne fin de soirée. Au revoir.